sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos.
Sur les chemins de l'exil. Une série documentaire de résonance sonore. Sans haine ni vengeance. Angel. Ou l'histoire d'un homme dont l'histoire avec un grand H, la guerre civile espagnole, la Seconde Guerre mondiale, la répression franquiste, bouscula la sienne, l'écrasa même. Aujourd'hui, c'est un homme au crépuscule de sa vie qui témoigne, sans haine ni vengeance, et nous raconte comment il a été confronté à la grande histoire.
La souffrance a forgé mon corps, le rêve l'a rendu humain.
Mon vécu, le plus difficile, je dirais, j'ai commencé à 9 ans, à partir de l'assassinat de ma mère. Et j'ai fini à 36 ans, quand je suis sorti en liberté du bagne d'Ocaña. C'est une histoire continue, dont il n'y a que de la souffrance et très peu d'espoir. Vous savez, et quand il s'agit de mon cas, quand je parle ni haine ni vengeance, quand on a beaucoup d'expérience, on arrive à une conclusion, que tout compte fait, quand il y a des gens qui sont méchants, qui font du mal, eh bien, ils peuvent changer. Ils peuvent changer si on leur donne l'occasion, une occasion, une opportunité, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas le bon chemin qu'ils ont choisi.
En 1931, aux élections municipales, les monarchistes font battre par les républicains. Le roi Alphonse XIII se retire, la République est proclamée. En février 36, lors des élections nationales, deux fronts s'opposent, le Front populaire et le Front national. Le Front populaire l'emporte et obtient la majorité absolue au Parlement. Le peuple a l'espoir d'une Espagne plus juste, avec une meilleure répartition des richesses. Mais Franco lance, depuis le Maroc, le 17 et 18 juillet 36, un coup d'État militaire contre la République. Un putsch qui s'enlise, seule une partie de l'Espagne se rallie. La guerre civile opposant nationalistes et républicains éclate. Elle s'internationalise et donne l'avantage à Franco. Les renforts militaires de l'Allemagne nazie et de l'Italie de Mussolini sont non négligeables. Les républicains sont seulement soutenus par l'Union soviétique et les brigades internationales, la France et le Royaume-Uni, n'interviennent pas. Ils espèrent rester en paix, la paix à tout prix. Les républicains armés du peuple est peu formée, mais elle se défend de manière héroïque face à l'avancée des troupes fascistes. Cette guerre est un massacre, un théâtre d'expérimentation de la terreur. Les avions allemands et italiens bombardent, volontairement, des populations entières pour semer la terreur.
Un peu sur la tragédie vécue par ma sœur, mon frère et moi-même.
Quand la guerre a commencé, en 1936, mon père, lui, c'était un anarcho-syndicaliste. Il était très engagé. C'est lui avec un autre qui sont allés chercher des armes et tout ça, et qui ont porté des armes au quartier où j'habitais. Et où nous avions la maison, et un magasin, on avait un magasin, et puis ils ont distribué les armes, etc. Puis après, il est parti au front, comme tout le monde. Comme tout républicain qui se vaut.
Les bombardements et leurs désastreuses conséquences. L'horreur d'un lever de soleil sans amour ni espérance.
En 1937, il y a eu plusieurs bombardements à Barcelone, et lors d'un bombardement, justement, mon père était à la maison, et bien, c'était le, Au début, tout à fait le matin. Mon père, il a pris mon petit frère, qui avait 2 ans, et ma soeur, qui avait 4 ans, et il est parti avec les deux, avec les voisins, ils sont partis au refuge. Et moi, je partais avec ma mère. J'avais mal attaché mes espadrilles, les espadrilles catalanes, vous savez, qui ont des grands lacets et tout ça. J'avais mal attaché, et chaque fois, je marchais sous mes lacets et je tombais. Et à un moment donné, ma mère m'a dit, arrête-toi, puis attache bien tes espadrilles. Bon, je m'arrête, ma mère, elle fait quelques pas. Et puis bon, il y a des bombes qui tombent. Vous voyez, je vous raconte ça, et je souffre comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais il faut le dire. Tant pis pour la souffrance. Il y a des bombes qui tombent, j'étais en train d'attacher mes lacets, et ma mère est blessée par une bombe. Moi, j'étais un peu blessé, mais pas grand-chose. Et donc, je vois que ma mère ne se lève pas, je m'en vais vite vers elle. Et puis bon, il ne pouvait pas se lever. Il avait les mains sur son ventre. Bon, je passe un peu. Passe un peu. Mon père vient en courant, parce qu'on tardait à arriver. Puis il trouve ma mère, etc. Bon. Et le voisin, il va chercher des brancardiers. Il charge ma mère, puis l'emporte. Il emporte ma mère. Et depuis, je ne l'ai plus revu. Elle est décédée à l'hôpital, enfin dans une clinique. À l'époque, il n'y avait pas de pénicilline, dont les blessures sont infectées complètement. Il y a eu la péritonite, etc., etc. Et puis bon, elle est décédée avec des souffrances énormes. Ça, je l'ai su beaucoup plus tard, bien sûr.
Ces bombardements sur Barcelone du 22, 24 et 25 juillet 1937 tuent 65 personnes et en blessent 150, tous des civils. La mère d'Angèle en fait partie. Ses derniers soupirs vont à ses enfants. Angèle, 9 ans. Maxi, sa sœur, 4 ans. Et son frère, José, 2 ans, se retrouvent sans maman. Leur vie bascule.
Alors mon père, qu'allait-il faire? Soit il restait à la maison avec les 3 enfants et il voyait ses collègues, ses compagnons lutter au front et tout ça. Il ne savait pas trop quoi faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ça, il ne l'a pas raconté. Hein. C'est l'histoire que j'ai appris petit à petit, etc. Alors il a demandé à la famille, aux uns aux autres, s'ils pouvaient nous garder. C'est vrai que c'était un moment très difficile. Et donc bon... Le petit, personne ne le voulait. Ma soeur encore, moi oui, moi j'avais pas de problème. Alors mon père, il a décidé qu'il ne voulait pas nous séparer. Il a décidé de nous placer dans une colonie. Une colonie à la Seyera del Ter, pas loin de Girona. Une colonie qu'ils avaient ouverte pour des enfants réfugiés de Madrid. Il y avait 2 colonies là-bas, il y avait une autre colonie, le Pays Basque. Et mon père, il était basque. Alors il voulait nous mettre avec les Basques, mais il n'y avait plus de place, pas du tout. Donc on nous a mis avec les Madrilènes.
C'est ainsi qu'Angèle fait partie des milliers d'enfants que les républicains espagnols décident d'évacuer pour les mettre à l'abri des zones de combat. Les parents restent ainsi combattre les troupes franquistes. Certaines femmes prennent les armes, beaucoup assurent la logistique primordiale pour les hommes au front, d'autres assurent le travail qu'auparavant occupaient les hommes ou font encore agents de liaison.
Matériellement, nous ne manquons de rien. La nourriture est bonne, mais la relation avec les enfants de Madrid est tendue. Nous sommes que 3 Catalans parmi eux.
Nous avons eu quelques problèmes avec ces enfants. Toujours l'histoire de Catalans et Madrilènes. Ce petit groupe, dont le chef, c'était Pascual. Il y a ma soeur qui vient en courant me voir. Il dit, José, il est en train de pleurer là-bas. Il avait 3 ans, mon frère. Et moi, j'avais 9 ans. Hein. Il y avait Pascual et les autres qui s'amusaient avec lui. Mon frère, il jouait avec un petit bâton en papier là, sur une flaque d'eau. Là. Puis ils sont arrivés, paf, ils ont mis le pied, puis bon, ils ont tout mouillé, etc. Ils s'est mis à pleurer. Alors moi, j'arrive là-bas. Pascual était un des grands, il devait avoir 13-14 ans. Alors moi, je commence à m'engueuler avec lui et à faire mon filia en main. Il me donnait une gifle et il me jetait par terre. Et puis bon, mais il arrivait un moment, il lui mordit un doigt. Alors il s'est mis à pleurer. Le directeur était de Madrid, il est venu vers moi et c'était moi le méchant. Dans cette grande bâtisse là, il y avait des petites caves où on mettait le charbon. Il m'a mis dans le quarto negro, qu'on appelait la chambre noire. Deux jours et deux nuits, j'ai passé là-bas dedans. J'avais 9 ans quand même. Alors quand je suis sorti, j'avais envie de me suicider ou partir avec mon frère et ma soeur. Alors quand je sors, j'arrive vers mon frère et ma soeur, ils m'attendaient, ils étaient assis sur un banc en pierre là. On ne s'est même pas dit bonjour, ni se embrassé, ni rien. Je me suis assis avec eux et on était rien. Au bout d'un moment, je vois arriver Pasquale avec le petit groupe. Bon, voici, maintenant, ils nous tuent, puis qu'on en finisse, quoi. Eh bien, non. Eh bien, non. Quand ils sont arrivés à notre hauteur, en pleurant, ils nous ont demandé pardon. Pour tout le mal qu'ils nous avaient fait. Vous voyez, il ne faut pas avoir de la haine ni de la vengeance.
Je n'oublierai jamais ce moment. Aujourd'hui, en l'écrivant, je ne peux pas retenir mes larmes de gratitude. Cette amitié fut chèrement payée, mais qu'elle était belle et salutaire. Maintenant, nous étions tous amis. Pas de différence entre catalans et madrilènes. Nous étions simplement des enfants, que cette maudite guerre nous avait éloignés des êtres que nous aimions. Ce qui nous attendait, quelques jours après, était terrible.
C'était Angel, sans haine ni vengeance, sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore soutenue par la région et la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.
ملاكي في هذه الدنيا أتمنى من الله أن يطول من عمرك وأتمنى لك دوام الصحة والعافية لك أنت يا أمي وكل أمهات يا رب أمي يا حياتي يا أجمل إنسان في الكون هربت هذه الدنيا بفضلك أنا في اليوم أكتب ألحاني ونغني وانا في اليوم علمتينا الحنية نسنا بألحان حنينة سمعتينا لحن الحب حأصبحنا رابورين اتألمت من دروسي ماي مازر شي اسمي هوم أمي وش الخير جلساتك مهنة فقدينه قال الكتب يا دارس ركز في صفحة الأم لأنه الصفحة حازي فيها النجاح مضمون لو ركزت في الكتابة رسمت كلمات الخير لو أبدعت وحيرت الغلط في التعبير الغلط في التعبير وقال الشر تعني تعمير الناس إنه الماما تتقيله في كل سلات المهمومة من أمبارة تحب تسمع دق الباب تتفقد أن أحوالك وتقول لك ابني جيت تنسى أوجاع الحمى تقوم وترفع القانون وتقول لك ببساطة يا ابني انت تأشيت وتكون انت ساكت مخدر شكلك مغمور نفسك تقول يا امي بس وريد الصوت مسموم نفسك تتمنى التوبة كل ما تشوف دموع الام اصحى يا ابني ادم رد بالك من خلق الكون الام هي اللاميخ بخلة بي انا في الكون النور اسي حبيبة ريسك ناتا هنا بوم النور حياري كين يداني كتام كون كين يداني كتام كون ناني كها اسم فوركون قال الكتب يا دارس ركز في صفحة الام لان الصفحة حازي فيها النجاح مضمون
J'en place une pour mes sœurs qui sont darons, qui souvent luttent seules dans l'arène, qui sont loin d'être des barons, vu que les salaires sont dans les bas des barèmes, des lions sans reine, sans roi, lions imposant leur règne, sans reconnaissance ni couronne, car élever des mômes, ça passe en secrète, ça pèse pas dans le game, j'entends même dire assume, c'est ton choix personnel, alors seul elle persévère, jusqu'à en perdre le sommeil, on les prend pour des mères sévères, on se dire qu'il faut que les pères se réveillent, merde, c'est vrai. dans vos normes, grandir sans percer mal, ça me perce l'oreille. Allez vas-y ferme ta gueule. C'est pas de mecs irresponsables dont ont besoin les mères seules. C'est pas à moi de dire ce qu'elles veulent. Mais si je remue mes tripérales, c'est en tant qu'allié pour pallier aux postures libérales. Le misérable patriarcat trouve un abus viscéral dans la double peine. Meuf et mère, dur de vivre ses rôles, pris dans les taux de la phallocratie intersidérale qui maintient l'ordre en place. Plus beaucoup d'interstices en rap.
Plus beaucoup d'interstices en rap. D'interstices en rap. D'interstices en rap. D'interstices en rap.
Découverte, initiative écologique, parlons nature, une émission de résonance sonore. Le paysage raconte la formation de la vallée.
Je suis Isabelle Corbière, je suis géologue et accompagnatrice en montagne. Mon activité est de montrer au grand public les objets géologiques, le patrimoine géologique sur les sentiers de montagne, notamment dans les Pyrénées.
Est-ce qu'on peut décrire là le paysage ?
À cet endroit précis du plat de Las Peyres. Peyres, comme son nom l'indique, ce sont les pierres, les grosses pierres sur lesquelles nous sommes et qui nous entourent. Donc ce fond de vallée est plutôt plat mais bosselé en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un creux, mais on a un fond de vallée élargi et avec plein de tas de pierres qui jonchent le sol. Des pierres plus ou moins rondes. D'autres encore bien anguleuses, ça tapisse comme ça ce replat de fond de vallée. Et puis au-dessus, ce plat se laisse un petit peu recouvrir par des pierriers. Voilà, c'est des gros tas de cailloux au pied de la pente, de part et d'autre de ce replat de fond de vallée. Donc ces pierriers, ce sont les pierres qui tombent des escarpements rocheux qui sont au-dessus. Et par gravité, ils s'accumulent au pied de la pente. Donc ces pierriers, quelque part, on pourrait dire que c'est ce qu'il y a de plus vif, de plus vivant, de plus actuel dans l'érosion d'aujourd'hui. C'est la fin de l'histoire pour nous. Et il recouvre autre chose qui est un peu plus ancien, en lien avec des formes très douces. Quand on regarde en direction du refuge du Rhule, le sentier qui monte au Rhule, il est sur une pente herbeuse, jonchée de blocs bien sûr, mais au relief plutôt doux, plutôt accessible. C'est une montagne à vaches. On sent qu'il y a eu de l'érosion mécanique. Mais une érosion mécanique qui n'est pas seulement localisée au torrent, comme c'est le cas aujourd'hui, mais avec ses formes arrondies, ses morphologies un peu en bosse, on a là la preuve du passage d'un glacier, donc la marque de l'érosion du glaciaire, qui depuis a disparu.
Pourquoi le glacier érode de manière plus douce ?
Alors il faut s'imaginer que ce glacier, il remplit toute la vallée. Il fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, donc c'est toute une épaisseur de glace qui pèse sur le fond de la vallée, et il va racler de toute sa largeur. Donc là, c'est sur plusieurs, je regarde les crêtes de part en part, de part et d'autre du refuge du Rhule, par exemple, entre la crête frontière, le pic du Rhule, et puis les autres pics qui surplombent le plat de l'Ice Peyre, il y a tout de suite une sorte de calotte glaciaire qui fait plusieurs kilomètres de large. Donc c'est sur toute sa largeur que le glacier va ramper, racler le fond. Et une fois qu'il disparaît, il laisse place à ses formes très arrondies.
Aujourd'hui, il y a des vaches, il y a des chevaux aussi de Mérins. Mais avant, il n'y avait que de la glace. Mais c'était quand, ça ?
Donc ça fait 2 millions d'années, le Quaternaire, qu'il y a des glaciers qui se succèdent les uns après les autres. Sur cette grande dernière période glaciaire, il y a les deux pics, les deux maximums. On les situe, le plus important, c'est 60 000 ans. Et le tout dernier, un peu moins fort, c'est 35 000 ans. Donc il y a 35 000 ans, ici, il faut s'imaginer près de 400 mètres d'épaisseur de glace. On est plutôt sur la partie haute, puisque les cirques sont tout proches de nous. On est au pied des crêtes pyrénéennes. Et du coup, on est dans la zone d'accumulation de la neige qui a donné lieu à la glace. Et on est au début du parcours de ce glacier. Ce glacier, il va rejoindre d'autres glaciers plus importants, notamment celui de l'Ariège. Tous ces glaciers, en fait, sont des glaciers de vallée qui se rejoignent plus bas pour former des glaciers plus importants. Donc on reprend le sentier et on va monter à un escarpement rocheux. On a une bonne petite bavante qui nous attend, là, pour atteindre le lac de Fontargente.
« C'était Parlons Nature, une émission de résonance sonore soutenue par la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.